Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériac au micro, en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du lundi 29 janvier 2018. À la une ce soir, le 30e sommet de l'Union africaine se termine ce lundi à Addis Abeba. Manifestation d'élèves au Tchad, la police a usé de gaz lacrymogène et procédé à une soixantaine d'arrestations à N'Djamena. Sénégal, les examens effectués sur l'une des touristes espagnoles affirmant avoir été agressée en Casamance ne confirment pas la thèse du viol. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Fin aujourd'hui du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La mise en œuvre de réformes institutionnelles jugées vitales pour l'Union africaine et les principaux conflits qui traversent l'Afrique ont fait l'objet de discussions. Le compte-rendu de Jacques Aristide.
Lors de la cérémonie de clôture, le nouveau président de l'Union africaine, Paul Kagame, a estimé que ce sommet de deux jours, placé sous le thème « Gagner le combat contre la corruption », a été un succès. C'est précisément sous l'égide du chef de l'État rwandais que l'organisation panafricaine s'est engagée en 2016 et 2017 à entreprendre une série de profondes réformes. Les enjeux, l'indépendance financière d'une institution qui fonctionne principalement grâce aux donateurs étrangers et un recentrage de ses activités en vue d'en faire une organisation efficace. L'autre préoccupation concerne les crises et conflits qui perdurent sur le continent, comme le chaos en Centrafrique et au Soudan du Sud, les groupes djihadistes dans certaines parties du Sahel, les tensions en République démocratique du Congo et au Cameroun. Pour le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, le moment est venu d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix. Dans un courrier envoyé aux dirigeants africains avant la fin du sommet, le président américain Donald Trump assure que les États-Unis respectent profondément les Africains. Il indique que le secrétaire d'État Rex Tillerson se rendra sur le continent en mars prochain pour la première fois depuis qu'il est chef de la diplomatie américaine.
Au Burkina Faso, deux policiers ont été tués ce matin à Baraboulé, près de la frontière malienne. Des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur des éléments de la police, a déclaré à l'AFP une autorité locale sous le couvert de l'anonymat. Les attaques attribuées aux djihadistes sont récurrentes dans cette région. Selon une autre source sécuritaire, un ratissage est en cours dans toute la zone de Baraboulé pour retrouver les assaillants. Au Burkina Faso toujours, le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 27 février l'ouverture du procès du général Gilbert Diendéré et 83 autres accusés. Ils sont poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Les audiences seront publiques, précise le procureur. Le général Diendéré avait pris la tête du putsch raté de 2015 contre le gouvernement de transition mis en place après la chute de M. Compaoré. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours. 4 soldats maliens ont été tués hier dans une attaque suicide à Ménaka. La veille à Soumpi, dans le centre du pays, 14 militaires ont été tués dans une attaque contre leur base. Et le 24 janvier, 26 civils sont morts lorsque leur véhicule a sauté sur une mine près de Boni, dans le centre du Mali. Au moins 47 indépendantistes anglophones ont été transférés du Nigeria vers le Cameroun, d'après le gouvernement camerounais. Sissiku Ayuktabe, le leader, figure parmi les personnes extradées. Le 5 janvier, les séparatistes avaient tenu une réunion dans un hôtel à Abuja, où ils ont été interpellés par les services de renseignement nigérians, selon leur avocat. Sissiku Ayuktabe milite pour que les deux régions anglophones du Cameroun se séparent de la partie francophone du pays. Rebondissement dans l'affaire des Espagnols qui avaient affirmé avoir été braqués et violés en Casamance au sud du Sénégal. La gendarmerie sénégalaise remet en cause leur version des faits. C'est Dina Bagay.
L'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a montré des contradictions entre les faits et les dépositions des touristes espagnols. L'élément le plus important de cette enquête est l'expertise médicale. En effet, l'examen gynécologique effectué sur l'une des victimes n'a pas montré de lésions pouvant confirmer la thèse du viol. Les deux autres femmes n'ont quant à elles pas accepté de se faire consulter par les autorités sanitaires. Les touristes espagnols ont aussi déclaré avoir été dépouillés de plus de 3 millions de francs CFA et de tous leurs effets personnels. Les investigations de la gendarmerie ont montré qu'il y a peut-être eu vol d'argent. n'a été dérobée aux victimes. Enfin, les ressortissants espagnols ont affirmé avoir été braqués sur la très fréquentée route nationale en plein jour. Et pourtant, les gendarmes n'arrivent toujours pas à trouver de témoins. Ce qui fait dire au ministre de l'Intérieur que ceci est peut-être l'œuvre d'ennemis de la paix qui profitent des derniers événements pour davantage déstabiliser le processus de paix en Casamance. En attendant la suite de l'enquête, deux des victimes sont déjà rentrées en Espagne. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Sénégal toujours, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Saint-Louis, dans le nord du pays, après la mort ce week-end d'un pêcheur sénégalais tué par des gardes-côtes dans les eaux mauritaniennes. Au moins trois boutiques appartenant à des Mauritaniens ont été pillées par des manifestants qui ont été dispersés par la police à coups de grenades lacrymogènes. Et des véhicules ont également été incendiés et au moins deux policiers et un gendarme ont été blessés. Les manifestants réclament des licences de pêche en Mauritanie. Au Tchad, la tension est vive ce lundi devant les banques, les établissements scolaires et les quartiers généraux des différentes centrales syndicales. La réduction des salaires des fonctionnaires par le gouvernement est à l'origine de cette grogne. André Kodmajingar fait le point de N'Djamena.
Il était 11h heure locale lorsque les locaux de l'école du centre qui abrite le siège du syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena ont été pris d'assaut par les enseignants. Colère et déception se lisent sur les visages puisque certains qui sont sous crédit doivent encore de l'argent à la banque. Ils ont contraint leurs responsables à imposer une assemblée générale. Gartoïde Blaise, secrétaire général de la dite section, donne le ton.
Nous acceptons l'esclavage. Non. Est-ce qu'on ira en grève ou pas? Les élèves doivent s'occuper des chefs d'établissement qui vont nous trahir.
Séance tenante, une grève illimitée a été lancée à partir d'aujourd'hui. Du côté de la Bourse du Travail, la plateforme syndicale revendicative appelle aussi ses militants à observer une grève générale illimitée dans le secteur public et privé sur l'ensemble du territoire avec un service minimum d'une semaine dans les hôpitaux. Les établissements scolaires sont restés fermés suite à une tentative de manifestation des élèves de quelques établissements de la capitale. Les jours à venir s'annoncent décisifs car les artistes, les organisations de la société civile et les acteurs politiques menacent de gérer la rue. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir tué trois rebelles burundais dans le sud Kivu. La nuit dernière, les soldats congolais en patrouille se sont heurtés aux forces nationales de libération, a déclaré un commandant de l'armée congolaise. L'accrochage a eu lieu dans le village congolais de Rusabagi, à Kiliba, frontalière du Burundi. RDC toujours, l'UDPS, parti d'opposition, annonce la célébration d'une messe jeudi à Kinshasa, en mémoire de son défunt leader, Étienne Tshisekedi, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2016 à Bruxelles, à 84 ans. Sa dépouille n'a toujours pas été inhumée. En Égypte, peu avant la clôture des candidatures à la présidentielle de mars, le chef du parti libéral Al-Gaad Mostafa Moussa s'est déclaré candidat. Sa candidature, si elle est validée, évitera au chef de l'État le statut de candidat unique. Monsieur Moussa, qui arborait jusqu'à ce matin un portrait de Monsieur Sisi sur sa page Facebook, est perçu comme un soutien du président.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle attaque à Kaboul en Afghanistan. Au moins 11 soldats sont morts tôt ce matin après un assaut de 5 kamikazes à la prestigieuse académie militaire Marshal Fahim. Claire Morin-Gibourg.
Le ministère de la Défense a revu son bilan à la hausse. On décompte désormais 11 morts et 16 blessés après cette nouvelle attaque revendiquée par le groupe État islamique. Sur les 5 kamikazes, un a été arrêté vivant, a confirmé le général Dalwat Waziri, porte-parole du ministère. Les forces spéciales ont été dépêchées sur place et le quartier de l'académie, une immense enceinte de plus de 40 hectares située dans l'ouest de Kaboul, a été totalement bouclée. L'académie militaire était relativement déserte. La présidence afghane avait décrété une journée chômée aujourd'hui à Kaboul pour s'occuper des blessés après l'attaque de samedi. Une ambulance piégée qui a fait plus de 100 morts et 235 blessés dans le centre de la capitale afghane.
Conflit en Syrie, au moins 33 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans des frappes aériennes du régime syrien sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, où des opérations militaires contre des djihadistes sont en cours. Tel est le bilan donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres. Pour la seule journée de lundi, les raids ont tué 16 civils, notamment 11 personnes qui se trouvaient dans un marché de la ville de Sarakeb, a précisé l'OSDH. Appuyé par l'aviation et leurs alliés russes, les forces pro-régime ont lancé le 25 décembre une opération pour reconquérir le sud-est de la province d'Idleb, reprenant notamment l'aéroport militaire stratégique d'Abu Dour. Le premier ministre israélien a accusé aujourd'hui l'Iran de vouloir détruire l'État hébreu lors d'une rencontre à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine. Nous lui ferons face avec toute notre force pour garantir le caractère éternel d'Israël, a déclaré Benjamin Netanyahou. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'Union africaine a créé un marché unique et libéralisé pour le transport aérien. Il inclut pour l'heure 23 pays du continent et vise à améliorer la compétitivité entre compagnies aériennes pour permettre l'augmentation du nombre de connexions directes entre pays africains et faire baisser les prix. Le président Kagame, qui assure la présidence tournante de l'Union, a annoncé deux autres grands projets, la création d'une zone de libre-échange africaine et d'un passeport africain pour la libre circulation des Africains sur le continent. Marrakech abrite pour deux jours une conférence régionale en vue de trouver des solutions aux frustrations exprimées dans certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Le FMI affirme que cette région affiche des taux d'emploi parmi les plus faibles du monde. Des personnes de moins de 30 ans composent plus de 60% de la population et chaque année, plus de 5 millions de jeunes cherchent du travail. L'Union européenne promet de réagir rapidement et de façon appropriée aux mesures restrictives américaines sur ses exportations. Le président Donald Trump a menacé l'Union européenne de représailles en raison d'un traitement qu'il qualifie de très injuste, soulignant la difficulté pour son pays d'écouler ses produits au sein de l'Union européenne.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Congo-Brazzaville échoue aux portes des demi-finales du CHAN.
Oui, les Diables Rouges l'ont compté, été éliminés hier par la Libye en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations à Agadir. Les Congolais ont cédé au tir au but 3-5 après avoir résisté aux Libyens. Un but partout jusque dans les prolongations. Côté Congolais, c'est la fin d'une belle aventure pour une équipe qu'on n'attendait pas à pareil niveau après avoir éliminé le Cameroun et le Burkina Faso en phase de poule. Satisfaction du sélectionneur congolais Barthélémy Ngatsono.
Il y a une qui a attaqué à outrance, l'autre était regroupée en bloc pour partir en contre-attaque. Voilà, et le jeu, je crois qu'il était quand même équilibré, parce que en fin de compte, on a fait 1-1 jusqu'aux prolongations. Et ce n'est qu'à l'issue de tir au but que la chance a joué. Nous avons manqué, et puis ils ont marqué les 5 pénaltys. Voilà.
Barthélémy Ngatsono, le sélectionneur du Congo-Brazzaville.
Au prochain tour, la Libye affrontera mercredi le Maroc.
Le pays organisateur favori après avoir éliminé la Namibie, 2-0 samedi à Casablanca, les Lions de l'Atlas semblent difficilement arrêtables devant leur public du stade Mohamed V. Et puis, Soudan-Nigeria, ce sera l'affiche de l'autre demi-finale. L'équipe du Soudan s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Zambie 1-0, c'était à Marrakech. Quant aux Nigérians, ils ont battu à Tanger l'Angola 2-1.
Aubameyang, tout proche d'Arsenal.
Oui, le transfert de l'attaquant gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, vers Arsenal est proche d'une concrétisation selon plusieurs médias anglais. Selon la BBC et Sky Sport, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour 68 millions d'euros après une première offre rejetée la semaine dernière. Toujours selon les deux médias britanniques, le Borussia espère recruter un remplaçant à Aubameyang avant de voir partir sa vedette vers l'Angleterre.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Les Rockets de Houston ont dominé sans problème les Phoenix Suns 113-102. Les Bucks de Milwaukee ont fait tomber les Bulls de 110-96. Et puis, malgré 21 points d'avance au cœur du deuxième quart-temps et un Anthony Davis en grande forme, la Nouvelle-Orléans s'est inclinée à domicile face à Los Angeles 103-112.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek en votre compagnie, place au dossier du jour. Fin aujourd'hui du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Sur place, notre correspondant Getachew Tedla.
La réforme pour une réalisation efficiente des résolutions adoptées par les leaders de l'Union et la décision de rigueur à l'égard des pays belligérants au Soudan du Sud sont les points saillants qui ont dominé le tableau du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux viennent de s'achever au terme de deux journées de débats houleux à Addis Abeba. S'agissant de réformes, dont la mission est confiée au président rwandais Paul Kagame, aura son actif le règlement des conflits. En vigueur dans certaines parties du continent, la nouvelle forme de coopération avec les pays industrialisés, entre autres le changement climatique et l'emploi des jeunes. En marge du sommet, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement englobant les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Est, est l'organe habilité pour régler les conflits au Soudan du Sud, dont les accords de cessez-le-feu, plusieurs fois brisés, ont amené les décideurs africains et leurs partenaires, surtout onusiens, à adopter des mesures de rigueur pour venir à bout de ces conflits à caractère de cercle vicieux. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, n'a pas mâché son mot au cours de sa conférence de presse en la matière.
Garantir le succès non seulement du forum de revitalisation des accords de paix, mais garantir que la cessation d'hostilité est respectée. Et que si elle n'est pas respectée, nous étions tous d'accord qu'il faudra des mesures plus fortes. Ce sera naturellement à l'IGAD lui-même de prendre l'initiative. Nous sommes prêts à soutenir n'importe quelle initiative africaine pour une plus robuste réponse aux violations dans le cadre du Soudan du Sud.
Getachew Tedla, Addis Abeba, pour la Voix d'Amérique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le sud du Burundi, plus de 7000 réfugiés congolais fuyant les affrontements entre miliciens Maïmaï et les FARDC au sud Kivu sont arrivés dans la province de Rumonge. Les autorités provinciales les enregistrent avant qu'ils ne soient conduits vers un site d'accueil dans l'est du Burundi, mais les réfugiés affirment ne pas recevoir de nourriture. L'administration demande l'aide des ONG. Christophe Kourounziza, notre correspondant, était sur place. Son reportage.
Sur la plage de Rumonge, à une centaine de kilomètres au sud de Bujumbura, ce bébé dans les bras de sa maman vient d'accoster d'une pirogue qui vient de la République démocratique voisine. Ce bébé a faim car depuis sa venue mercredi, aucune aide en nourriture n'a été donnée à ces réfugiés congolais fuyant les affrontements entre miliciens Maïmaï et les FARDC. Témoignage de la maman du bébé qui pleure.
Mon bébé a faim. Nous sommes arrivés ici avant-hier. Nous avions peur des tirs, raison pour laquelle nous avons fui. Nous ne savions même pas qui sont les protagonistes. Nous avions peur et nous avons fui sans même manger. Le bébé pleure car il a faim. Nous n'avons rien à manger car nous n'avons pas d'argent.
Plus de 7000 Congolais ont transité par ce port de Rumonge au sud du Burundi. Ce jeune Congolais raconte son calvaire le jour où il a décidé de fuir les combats.
Là-bas, il était en tout cas le Maïmaï et le soldat de Joseph. On a beaucoup combattu. En tout cas, c'était très grave. Là, à Mizimu, je ne sais pas où, à Casimir aussi. Il y a beaucoup de soldats sont là. Alors, les rebelles là sont là. Et c'est pourquoi nous, c'est pourquoi on a revenu ici.
Kashimo Mirindi est âgé de 65 ans, il a 9 enfants, il raconte son cauchemar.
Nous avons pris fuite, il y a une guerre civile entre les forces armées congolaises et les milices du Congo. Les forces armées congolaises ont commencé à incendier des maisons, à brûler toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons pris fuite. Si la paix arrive dans si peu de jours, nous pouvons retourner en arrière. Depuis que nous sommes arrivés ici maintenant, il n'y a rien vraiment comme nourriture. Il n'y a rien comme nourriture. Même l'eau à boire, il n'y a rien.
De la plage de Rumonge, ces réfugiés congolais transitent par un site de fortune à quelques mètres plus loin devant le tribunal de grande instance de la même localité, d'où ils seront conduits au centre de transit de Tchankouzo, à l'est du Burundi. Mais d'autres sont conduits vers Gatumba, une ville située près d'Uvira, pour retourner chez eux. C'est du moins ce que nous a indiqué le conseil socioculturel du gouverneur de la province de Rumonge, Aaron Daïsenga.
On a pris la décision de désengorger cette plat où on vient de prendre un bon nombre de ces gens-là vers le site de Kabumu à Chankuzo. Il y a ceux qui restent ici qui vont voyager vers la frontière burundo-congolaise à Gatumba pour retourner chez eux au Congo.
Mais ces réfugiés font aussi face au choléra, comme l'affirme le conseiller du gouverneur.
Oui, nous en sommes au courant. Ces cas ont été constatés. Et alors, les agents de la Croix-Rouge les ont dépêchés à l'hôpital et sont sous des traitements.
Quand l'on était à Rumonge, les réfugiés congolais continuaient de venir par le biais des petites et grandes pirogues locales. D'autres pirogues faisaient également le chemin inverse vers la RDC. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ne manquez pas le nouveau rendez-vous de VOA Afrique, le monde au féminin, présenté par Nathalie Barge, tous les mardis et samedis à partir de 19h TU. Le monde au féminin est une émission interactive dans laquelle on aborde sans tabou toutes les questions qui concernent et préoccupent les femmes, les filles et la jeunesse. Le monde au féminin, un espace réservé à tous, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, tous les mardis et samedis, à partir de 19h TU, sur VOA Afrique.
Les réfugiés en provenance du Cameroun anglophone continuent d'affluer au Nigeria. Les responsables des agences humanitaires dans l'état de Cross River affirment que le nombre de réfugiés a triplé. En ce moment, quelques 33 000 personnes sont enregistrées et leurs conditions continuent de se détériorer. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Ces réfugiés camerounais qui fuient depuis début octobre la crise qui frappe la zone anglophone du pays sont reçus dans trois états actuellement. L'état de Cross River dans le sud-est a reçu le plus grand nombre de personnes qui sont hébergées pour le moment par des familles au Nigeria pour ceux qui ont des relations dans des conditions difficiles. Onegechi Clément est arrivé au Nigeria il y a quelques jours.
Nous avions pu enregistrer jusqu'à 300 femmes en grossesse parmi eux durant ce processus d'identification. Nous avons eu quelques cas d'accouchement. Nous sommes aussi en relation avec d'autres organisations sanitaires de la région. Nous soutenons les cas d'intervention chirurgicale et nous avons déjà plus de 25 cas d'intervention chirurgicale.
Les états de Benue et de Taraba dans le nord-est sont les deux autres points d'entrée de ces réfugiés. Beaucoup d'entre eux ont passé plusieurs semaines en brousse avant de rejoindre l'état de Cross River. Ils affirment aussi avoir fui la zone à cause de sévères mesures de répression dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où les autorités camerounaises ont bloqué l'accès à l'Internet. Plusieurs ONG nationales et internationales opèrent sur le terrain pour offrir de l'assistance aux réfugiés. Chou Eric dirige une organisation humanitaire nationale qui intervient dans le domaine de la santé.
C'est depuis le 1er octobre dernier, lorsque nous avons déclaré notre indépendance, que notre président Paul Biya a commencé ses problèmes. Il a déployé beaucoup de militaires dans notre région qui a été prise en otage. Ils nous ont demandé de quitter nos villages, ils ont même tué certains de nos parents. C'est ce qui nous a obligés à quitter les villes.
Vu l'ampleur du phénomène, l'OACR et les autorités fédérales travaillent pour mettre en place les camps pouvant les accueillir. Brigitte Mukanga Ino est la représentante adjointe du HCR et auprès de la CDAO.
Il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout de lien avec les Nigériens et donc qui n'ont nulle part où rester. Et pour cela, nous sommes en train de travailler actuellement avec les autorités nigériennes pour mettre en place des camps de réfugiés temporaires. Et donc, au moment où nous parlons, nous avons une équipe actuellement dans le Cross River en train d'identifier les sites qui seront développés pour le cas de ceux qui n'ont pas de famille.
Des inquiétudes grandissent surtout dans l'état de Taraba, dans le nord-est, pour ces milliers de réfugiés, alors que le Nigeria est lui-même en proie à la violence de Boko Haram dans cette partie du pays, fief des groupes terroristes. L'organisation onusienne pour les réfugiés prévoit d'organiser le retour de ces personnes dès que la situation se stabilise dans la zone du Cameroun anglophone. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, a lancé à la mi-janvier un projet de renforcement des médias de la société civile à Dar es Salaam, en Tanzanie. Cette initiative est baptisée Boresha Habari, ou Meilleures Nouvelles. Mise en œuvre en coordination avec les ONG Internews et le FHI 360, le projet Boresha Habari travaillera avec des partenaires tanzaniens, y compris le Conseil des médias de Tanzanie, l'initiative tanzanienne Bora et Jamii Media. Il s'agit de renforcer les capacités professionnelles des journalistes et de promouvoir un environnement médiatique ouvert. Sur les 5 prochaines années, le projet Boresha Habari se donne pour objectif de travailler avec le groupe médiatique et les stations de radio de Dar es Salaam, Zanzibar, Iringa, Morogoro, Aruba, Manyara, Dodoma, Tanga, Mtwara, Mwanza et Kigoma pour améliorer leurs capacités professionnelles. Spécifiquement, le projet Boresha Habari fournira aux médias la formation et l'assistance technique, les aidera à adopter les nouvelles technologies digitales et renforcera leur viabilité financière. Le projet formera aussi les organisations de la société civile pour en faire des partenaires des médias. Le gouvernement américain est engagé à soutenir la professionnalisation des médias et de la société civile en Tanzanie, en particulier à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes pour faire entendre leur voix et exprimer leurs préoccupations en tant que producteurs et consommateurs de l'information, a souligné le directeur de la mission de l'USAID, Andy Karas, lors du lancement du projet. Les États-Unis sont fiers de travailler avec la Tanzanie, leur partenaire, pour aider à bâtir une société civile forte et vibrante, soutenir des médias libres et indépendants.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Et tout de suite.